Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh, oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dimitri Rouchon-Bory. Bonjour Dimitri.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Dimitri Rouchon-Bory, vous êtes chroniqueur judiciaire. Et de la chronique judiciaire, vous êtes passé au roman et vous êtes devenu écrivain, un écrivain remarqué, puisque votre roman Le démon de la colline aux loups vous a valu, entre autres, d'être finaliste du Goncourt du premier roman. Ça va un peu vite, non ?
Oui, ça va très vite. Ça va très vite, mais avec ce roman, tout va vite, puisque c'est un roman qui m'a traversé rapidement. Et qui m'amène vers des choses nouvelles aussi, très fortes et très intenses, donc très vite.
Alors Dimitri Rouchon-Bory, vous avez choisi comme journée particulière le 14 février 2011. Ce jour-là, vous passiez votre première journée au tribunal de Saint-Brieuc.
La justice, c'est tout d'abord un spectacle. Le palais est notre 6e scène nationale. On y joue tous les jours en matinée. Mais on y joue la tragédie et le vaudeville. Les assises, c'est le grand spectacle tragique. Tout y est. Le cérémonial est lent et noble, et il est coupé d'incidents que l'on appelle d'ailleurs des coups de théâtre. Il y a les costumes, surtout. Les robes noires des avocats, couleur de deuil, les robes rouges des magistrats, couleur du sang, sont de très jolis costumes. Il y a aussi le public, comme dans tout spectacle. Un public de connaisseurs qui se disputent les bonnes places. J'ai entendu une dame crier à un avocat qui était debout devant elle « Assis, assis, vous me cachez l'accusé ». Et l'avocat lui a répondu « Écoutez, madame, faites-vous rembourser au contrôle ». Mais aux assises, comme dans tous les spectacles, il y a la critique. La critique, c'est la chronique judiciaire. Les chroniqueurs ont chacun leur place attitrée et ils sont aussi blasés que des habitués de général.
Alors c'était une archivina de 1969 avec la voix du chroniqueur judiciaire Jean-Paul Lacroix. Vous, Dimitri Rouchon-Bory, vous ne pouvez pas être blasé. Vous ne pouviez pas, en tout cas, ce 14 février 2011, être blasé, puisque c'était votre première fois. Vous avez eu l'impression, comme ça, de rentrer dans un théâtre ?
Dans une fourmilière.
Ouais.
C'est un petit tribunal d'une ville de taille moyenne. Et pourtant, déjà, il y a une effervescence. Et quand on rentre, on sent bien qu'il se passe plein de choses, mais on ne sait pas encore vraiment quoi. Et donc on a une manière peut-être déjà de se préparer, parce qu'on sait bien que si on va au tribunal, c'est pas pour des choses qui sont comiques, c'est pas pour des choses qui sont tendres. Donc on se prépare un peu, mais déjà il y a cette foule de gens affairés, on comprend pas bien les rôles des uns et des autres, et on traverse pourtant ce monde-là avant d'arriver là où on doit aller, c'est-à-dire la salle d'audience.
Alors est-ce que vous vous rappelez, Dimitri Rouchon-Bory, quel était ce procès, ce premier procès auquel vous avez assisté ce 14 février 2011?
Oui, c'est un procès de cour d'assises. C'était mon premier procès d'assises. Ça commence à 9h et j'arrive un tout petit peu en retard. Donc les jurés sont déjà installés. Et moi, je monte le grand escalier central du tribunal de Saint-Brieuc. Et la première image que j'ai, c'est celle d'une salle entièrement vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de public, justement. Il n'y a presque personne, presque. Il y a face à moi le mur que constituent un peu les jurés, la présidente et les assesseurs. Très solennel, l'avocat général à ma droite. Et puis, dans le box, un jeune homme au crâne rasé. Je crois qu'il avait un pull blanc. Et puis, il y avait son avocat qui était assis devant. Et l'autre chose qui était marquante, c'était une toute petite silhouette que je voyais de dos entre deux gendarmes. Voilà. Et moi, j'arrive là et je ne sais pas quelle est l'histoire. Je ne connais pas le... et je suis tout seul assis dans cette grande salle. Et donc, je m'assieds discrètement un peu à l'arrière, comme ça. Et je découvre petit à petit, parce que là, à l'époque, maintenant ça a changé. À l'époque, le greffier d'assises faisait la lecture intégrale de l'ordonnance de renvoi, ce qui fait qu'on avait déjà un peu le cadre et l'histoire. Et donc je découvre l'histoire de ce jeune homme qui est accusé d'avoir tué son beau-père d'un coup de fusil. Et donc la personne qui est entre les deux gendarmes, c'est sa mère en fait. Et elle est là parce qu'elle est elle-même incarcérée. Parce qu'elle a des problèmes d'alcoolisme très lourds, et donc elle est en prison, et donc elle assiste au procès de son fils entre deux gendarmes, et en plus, elle est partie civile, puisqu'elle a perdu son compagnon dans le procès. Et donc moi, je tombe en plein dans ce huis clos familial étonnant et d'une tristesse absolue, et cette première image de la justice est celle-là. C'est-à-dire que tout de suite, on sait ce qui va se passer ensuite pour tous les autres procès qu'on va couvrir, parce que elle est marquante, cette tristesse-là. C'est au-delà de ce qu'on va pouvoir raconter, on le sait tout de suite.
Et pourtant, vous avez eu envie de continuer ce jour-là, quand ce 14 février 2011, Dimitri Rouchon-Bory, vous saviez, en sortant du tribunal, que vous alliez vraiment devenir chroniqueur judiciaire. C'était vous vouliez vous frotter à cette tristesse-là.
Oui, parce qu'en plus, elle me permettait de... C'est pas une excuse pour l'écriture, mais parce qu'on sent bien que si on veut être à la hauteur de ce qu'on a vu, il va falloir... trouver des mots, trouver une écriture, trouver une méthode de travail. Et moi, j'ai l'impression d'avoir rencontré le sens de mon métier ce jour-là.
Alors, à la sortie du tribunal de Saint-Brieuc, ce jour-là, sur la route, pour rentrer chez vous, Dimitri Rouchon-Bory, vous écoutiez ça. Miséré d'Allegri, Dimitri Rouchon-Bory, c'est ce que vous écoutiez donc en sortant du tribunal, ce 14 février 2011.
Oui, par hasard. Je cherchais quelque chose à écouter et j'ai commencé à écouter le Miséré d'Allegri et c'était parfait parce que ça fait partie presque aussi de cette expérience du tribunal. Que d'avoir besoin à un moment donné d'un surcroît de beauté aussi et en même temps il y a tout dans cette composition là il y a de la droiture il y a des notes qui vont chercher jusqu'au ciel d'autres qui sont beaucoup plus basses et c'était apaisant en fait de compenser un peu de déshumanité, c'est-à-dire de d'horreur, par le fait de se dire qu'on était aussi capable en tant qu'humain de faire ça. C'était un morceau comme celui-là.
De la beauté. La musique est très importante pour vous, Dimitri Rochambeau. Elle vous accompagne souvent à la sortie du tribunal, comme ça.
Il y a des moments où, à la sortie du tribunal, on n'est bien que dans le silence. Parce que, et souvent, à la sortie du tribunal, on a besoin de silence. Mais après, quand on quitte le silence, la musique, c'est une manière de rejoindre quelque chose d'un peu plus collectif et d'un peu plus festif, parfois, aussi.
De rejoindre la vie. Donc, le 14 février 2011, c'est votre journée particulière, Dimitri Rochambeau. C'est la première fois que vous assistiez à un procès d'assises dans un haut tribunal de Saint-Brieuc. Vous êtes alors devenu chroniqueur judiciaire. Et finalement, est-ce que d'une certaine façon, chaque journée passée dans un tribunal ne devient pas une journée particulière? Est-ce que chaque jour passé dans un tribunal, ce n'est pas une journée particulière?
Il y a toujours eu cette idée qu'il n'y avait rien d'acquis dans la chronique judiciaire, déjà dans l'écriture, parce que c'est les histoires changent, et à chaque histoire on doit se remettre en question, se remettre en cause. On peut pas raconter toutes les histoires pareilles, et c'est vrai que chaque fois qu'on arrive au tribunal, on a l'impression de, c'est pas une histoire sans fin, mais c'est en tout cas quelque chose qui recommence et qui se recrée en permanence. Et même si on acquiert parfois un peu d'habitude, c'est toujours particulier, c'est toujours unique.
Là où finit la terre.
Appel à tous les navires, appel à tous les navires, ici Brest le Conquet radio. Appel à tous les navires, appel à tous les navires, appel à tous les navires, appel à tous les navires.
Qui voit Molène voit sa peine, qui voit Wesson voit son sang, qui voit Saint voit sa fin.
Ce message, jamais navigateur ne l'a entendu, jamais radio ne l'a lancé. Il est inscrit en lettres d'écume sur des milles et des milles, dans ces parages où la terre n'en finit pas de finir, où l'océan n'est pas encore le grand large. Non, ce n'était pas ce message que diffusait la radio des marins ce jour où nous voguions vers les îles du bout du monde.
Dimitri Rochambeau, cet archive pour illustrer un peu le monde dans lequel vous naviguez, j'allais dire. Vous travaillez en Bretagne et dans les tribunaux, il y a plein d'histoires de bateaux, de naufrages. C'est là aussi ça.
Entre la chronique judiciaire et le fait divers, on a une... C'est une exploration du territoire qui est différente, et donc on voit ressurgir ce qui fait la force et le caractère d'un pays comme la Bretagne. Et c'est vrai que les histoires de mer, les naufrages, les histoires de pêche, les drames de pêche aussi, les drames des familles, tout ça, ça arrive au tribunal d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai qu'on rencontre aussi cette saveur. C'est maladroit comme terme, mais c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire qu'on a du sel aussi dans nos chroniques judiciaires.
Ça veut dire du sel, ça veut dire que des fois vous avez entendu, vous avez assisté à des histoires incroyables.
On a des histoires incroyables, on a des histoires de... Je me souviens d'un procès qui avait lieu à Rennes, mais qui concernait beaucoup de nos marins pêcheurs qui avaient transporté des clandestins en Angleterre. Et dans cette enquête gigantesque qui avait eu lieu, on avait deux marins qui avaient sauté d'un bateau en pleine mer et que l'équipage avait vu nager vers le large, comme ça, sans demander de secours. Et derrière, la famille de l'un d'eux, qui était une famille détruite et qui voulait absolument faire admettre par la justice que leur fils avait sauté du bateau pour sauver son compagnon. On a des marins qui disparaissent et qu'on ne retrouve pas. On a tout ça au tribunal. Et on a aussi des naufrages incroyables, parce qu'on a des ports comme Paimpol, et qui sont des lieux où les gens sont pleins d'histoires. Et y compris des histoires dures, sont des gens qui m'ont expliqué qu'ils ne se baignent jamais, ils ne vont jamais prendre un bain de mer. Jamais.
Parce que la mer, c'est là où les...
C'est là où les gens meurent, c'est là où les gens disparaissent. C'est cet inconnu qui est à la fois la chose la plus présente dans un quotidien et en même temps qui peut à tout moment vous prendre un être cher. C'est encore là, ça, très fortement.
Dimitri Rochambeau, je vous propose d'écouter Pascal Robert-Diard, que vous connaissez, qui est journaliste au Monde et qui s'occupe de la chronique judiciaire depuis plus de 20 ans.
Ce qui est vrai, c'est que le procès produit quelque chose de particulier. Moi, ce qui fait que j'ai effectivement une passion pour l'audience, et particulièrement pour l'audience criminelle, c'est que entre le procès verbal que vous pouvez lire, y compris si vous avez l'occasion de lire le dossier avant le procès, par exemple, et la personne qui va venir se présenter à l'audience, avec sa manière d'être, avec ses hésitations, avec ses silences, avec ses affirmations, avec la façon dont elle va vouloir affirmer ce qu'elle a vu, par exemple, si c'est un témoin, et la façon dont elle va être ensuite possiblement déstabilisée, soit par l'accusation, soit par la défense, selon le camp qu'elle sert ou dessert. Tout ça va bouger, c'est-à-dire que ce que l'audience va offrir, c'est que de ce dossier de papier vont surgir des personnages de chair qu'on va voir devant nous, qu'on va entendre, dont on va percevoir la sueur, la peur, l'amour. On va observer tous ces gens autour d'un dossier. Le crime, c'est une espèce de grande déflagration qui va concerner plein de gens, la voisine, le boulanger, mais aussi la famille, etc. Et tout ça va s'animer devant nous. Moi, c'est ça que j'aime profondément voir et ensuite raconter.
Dimitri Rochambeau, vous vous reconnaissez dans ces mots de Pascal Robert-Diard, ces personnages qui prennent chair, qui s'animent, voir leur peur, leur sueur, leur amour.
Oui, forcément, et d'autant plus que quand on suit un procès d'assises, ça dure des jours et des jours. Donc, il arrive parfois que les gens comparaissent libres. Et il y a des moments où on se retrouve à la machine à café avec des gens qui sont jugés pour un meurtre.
Vraiment ?
Oui, vraiment, oui. Ça arrive assez. Tous les gens ne sont pas forcément emprisonnés au moment de leur procès. Et parfois, on est dehors comme ça parce que les gens vont fumer leurs cigarettes. Alors les avocats discutent. Et puis, il y a l'accusé qui est là et qui, l'instant d'avant, était interrogé sur des faits sordides. C'est intéressant, ça, parce qu'il n'y a pas de... Moi, j'aime bien cette idée qu'il n'y ait pas de séparation absolue dans les rôles. Quand on est dans la salle d'audience, on est tous ensemble. Et donc, même si on essaie de se préserver, moi, j'essaie toujours d'être assis au milieu du public. Et puis, à différents endroits, parce qu'on voit pas toujours le procès pareil selon l'endroit où on est assis. Mais quoi qu'il en soit, on est tous ensemble dans cette grande pièce. Et il y a des choses qui se passent dans cette... je vais pas dire que ça fait une sorte d'osmose, mais on voit bien évoluer entre le premier jour... Et le dernier jour, il y a des relations qui se créent, il y a des gens qui se rencontrent. Parfois, ce sont les mères, la mère de la victime qui rencontre la mère de l'accusé. Et elles s'évitent un peu, puis petit à petit, elles se rencontrent. Et moi, j'ai vu un procès où elles sont tombées dans les bras l'une de l'autre. Et sans se dire quoi que ce soit, parce que, voilà, chacune d'elles avait perdu un fils. Et ça, c'est des moments qui n'arrivent qu'au tribunal. Donc, oui, et on décrypte toute la vie de quelqu'un. Mais... Le procès d'assises, c'est un procès d'exception, parce qu'un crime, c'est rare. Et moi, j'aime beaucoup les petites audiences dans les tribunaux de police, où on juge les problèmes de voisinage, parce que les gens sont plus spontanés. Et c'est vraiment là qu'on croise tout le monde. C'est vraiment, on croise la vie tout entière dans ces petits procès.
Vous m'avez parlé, sans m'en dire plus, d'une histoire avec une vieille dame.
Et bah, par exemple, on est en tribunal de police, donc c'est presque de l'ordre de la contravention, c'est pas très grave, elle a rayé une voiture. Mais elle a rayé la voiture d'un monsieur pour qui elle avait sans doute des sentiments très forts. Et en fait, c'est une petite dame qui a travaillé toute sa vie avec un homme. Elle a été sa secrétaire, elle l'a accompagnée. Et quand il a cessé son activité, il l'a engagée comme aide à domicile. Et en fait, l'audience ne dit pas quelle a été leur relation. Mais peut-être on la devine. Et un jour, ce monsieur meurt et elle se retrouve toute seule. Et elle est chassée de la maison. Et tous les jours, à la date anniversaire de la mort de ce monsieur, elle allait dire une petite prière en cachette dans la cour de la maison. Et un jour, elle voit la voiture des enfants. Les enfants qu'elle avait jamais vus, qui s'étaient jamais occupés du papa. Et donc elle a un geste de colère, elle raye la voiture. Et c'est une petite dame qui, à 80 ans, se retrouve convoquée au tribunal pour dégradation. Et derrière cette dégradation, il y a une formidable histoire d'amour qui n'a jamais eu de mots. Ça, c'est un moment très émouvant de tribunal.
Et ça, c'est là, vous avez le plaisir de raconter cette histoire. Cette histoire d'amour qui n'est pas dite.
Oui. Et la petite dame qui a 80 ans est représentée par son avocate. Et son avocate qui l'excuse en disant qu'elle avait trop honte, elle pouvait pas. Et elle avait plus honte de devoir peut-être dévoiler un peu de sentiment pour expliquer son geste plutôt que son geste lui-même qui finalement faisait l'objet d'aucun regret de sa part.
Dimitri Rouchon-Bory, parfois c'est éprouvant aussi le tribunal. Parfois vous prenez des histoires violentes, même sans parler de crimes, mais des histoires absurdes. Vous faites face à ça aussi.
Tout le temps, c'est jamais reposant. Parce que déjà il faut être... on écoute. C'est-à-dire qu'on écoute et pour bien écouter, il faut éponger, donc il faut ramasser. Et si on ramasse pas, on peut pas écrire justement ce à quoi on assiste.
Alors et vous épongez quoi ?
On éponge effectivement de la sueur, des histoires d'amour tristes et on éponge beaucoup de silence. Voilà, des questions sans réponse tout le temps, des gestes. Moi, ce qui m'a marqué au tout début, c'était ça. C'est, je croyais qu'il y avait forcément une explication à chaque geste atroce. Et je découvre que, dans la plupart des cas, contrairement à toute la littérature policière, il n'y a pas d'explication. Les gens ne savent pas expliquer pourquoi ils ont détruit quelqu'un à coup de marteau, etc. Donc, c'est ces histoires-là qu'on a tous les jours, des gens qui sont dépassés par eux-mêmes, qui n'expriquent même pas forcément de regrets. On voit bien qu'on leur dit qu'il faut regretter, alors ils se présentent à la barre, ils disent « je suis désolé », mais on voit bien qu'ils n'en pensent rien, parce qu'ils ne savent pas expliquer ce qui s'est passé. Le geste lui-même n'est pas enraciné dans quelque chose chez eux, ça s'est produit comme ça, souvent il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de... Donc on a des histoires de... Je me souviens d'une histoire comme ça marquante, c'est un monsieur qui agresse sa voisine avec un marteau, et elle est sauvée par un hasard, c'est que la tête du marteau se décroche. Et l'audience s'arrête à un moment donné sur ce fait-là. Et il y a forcément un silence dans la salle. Vous imaginez, tout le monde voit le marteau qui s'envole. Et c'est grâce à ça que la dame a eu la vie sauve. Et souvent, les présidents ou présidentes d'audience disent, ben voilà, c'est pas grâce à vous qu'elle est vivante, cette dame, aujourd'hui. Et il y a ce mélange, voilà, un peu poisseux de hasard.
De vide.
De
manque de mots.
Pas de mots. Et moi, je sais que je pense que c'est ce manque de mots qui finit par être le plus marquant.
Et c'est ce qui vous a attaqué un peu à force, Dimitri Rouchon-Bory.
Le fait de ne pas avoir de réponse et petit à petit de me rendre compte que j'avais envie de commencer moi à les donner, à les chercher, à les inventer, à les rêver un peu même parfois, parce que c'est très très éprouvant de pas avoir d'explication au mal, en fait. On voit cette dimension-là de la vie humaine.
Comme vous le dites, il y a un coût à rester à l'horizontalité des drames en l'absence de toute lumière.
Oui, c'est un coût humain. C'est-à-dire que quand on est journaliste et qu'on arrive au tribunal, est-ce qu'on a une raison d'être là ? On est là pour observer, pour raconter, mais on fait pas partie de la vie des familles. Alors, on est un peu attrapé par les familles aussi qui viennent nous chercher, qui nous faire des reproches, ou au contraire, nous raconter, nous partager un peu. Donc, on est un peu au croisement de plein de choses qui sont quand même très intenses humainement. Et pour bien faire ça, pour accueillir ça, il faut effectivement accepter ce coup-là. C'est-à-dire, on en prend des coups.
Full
Dimitri Rouchon-Bory, ça, c'est aussi un disque Radiohead que vous écoutez souvent à la sortie du tribunal.
Oui, souvent. Pour plein de raisons, pour la mélodie, parce que ça m'emmène. Et puis, là, ce titre-là, il est bien parce que, voilà, pas d'alarme, pas de surprise. C'est tout l'inverse du tribunal.
Ça repose.
Ça repose, et on a besoin de ça, vraiment. C'est compliqué de trouver l'équilibre. Par quoi on va compenser quand même tout ce qu'on absorbe? Et au bout d'un moment, ça suffit plus d'écouter, il faut aussi faire des choses, nous, voilà.
D'accord, alors jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la journée particulière de Dimitri Rouchon-Bory, donc chroniqueur judiciaire au Télégramme, hein, c'est bien au Télégramme, devenu écrivain, et quel écrivain. Et alors, mêler le journalisme à l'art et la technique romanesque, c'est ce que Truman Capote déclarait avoir voulu faire avec De sang-froid, qui est devenu un classique de la littérature américaine. Je vous propose d'écouter Truman Capote.
À cet homme, nous ne pouvons que dire, Truman Capote, vous êtes fasciné par la mort.
Fascinated by death? Don't you think everyone is?
Ne pensez-vous pas que tout le monde l'est?
I know why you ask that, because you think that...
Vous pensez que, obsédé par la mort, j'ai écrit ce livre documentaire, De sang-froid, à la fois comme un prétexte et comme poussé par la malice de la nature humaine. Mais je ne pense pas que ce soit pour cela que j'ai écrit ce livre. Parce que ce que je voulais faire était écrire un document. Parce que le livre, je veux dire, le choix du sujet, c'est un accident. Ce que je voulais faire, c'était mêler le journalisme et la technique romanesque. La raison pour laquelle j'ai choisi cette histoire et que les gens étaient tellement typiques d'un certain aspect de l'Amérique. Il y avait l'opposition entre ces deux garçons sauvages, impitoyables, et cette famille terriblement tranquille, gentille, ordinaire. Ils m'ont semblé avoir ainsi une valeur symbolique. Ils représentent ce qu'est l'Amérique aujourd'hui, ce que je pense qu'elle est. Aussi, lorsque j'ai commencé à écrire le livre, ce n'est certainement pas par obsession de la mort. Mais je ne vois pas ce que vous voulez dire, parce que j'ai toujours été attiré par le versant nocturne de la nature.
C'était la voix de Truman Capote en 1966, Dimitri Rouchon-Bory. Est-ce que vous êtes comme lui attiré par le versant nocturne de la nature humaine?
Je pense qu'il y a effectivement une envie de comprendre et d'aller affronter ce versant-là. C'est peut-être lié à des dispositions personnelles que je ne maîtrise pas tout à fait, mais oui, il y a cette envie-là de ne pas aller, quand on est journaliste, forcément, on va aussi vers le bon côté de la nature humaine, mais celui-là révèle tellement de choses. Lui dit que ça... Voilà, il y a la société qui vient là, mais il y a aussi des choses qui sont valables de toute éternité et qu'on rencontre dans une toute petite histoire un jour au tribunal et ça finit par devenir un terrain de compréhension, de jeu, d'exploration qui est plus fort que tous les autres parce que tout y est tout le temps.
Alors pourquoi vous avez eu besoin de passer de l'écriture journalistique à l'écriture romanesque?
J'ai l'impression que la chronique judiciaire, c'est déjà un genre journalistique qui autorise... le style qui autorise, voilà, c'est de la chronique. Donc, mais parce que quand on est dans au tribunal, on voit bien que si on s'en tient à l'objectif journalistique, qui est l'information,
restituer les faits.
Bon, on va le faire deux, trois fois, et puis les faits, c'est un peu toujours les mêmes. Hein. C'est pas à part quand on a des crimes très crapuleux, sophistiqués, mais ça n'arrive jamais. C'est la plupart du temps, les faits sont pas très intéressants. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça nous dit, ce que ça raconte, l'histoire des gens. Comme il le disait, la collusion entre de la sauvagerie et de l'ordinaire, c'est tout ça qui devient intéressant. Et pour ça, Il faut trouver des mots, il faut comprendre beaucoup de choses, il faut approfondir. Et le journalisme, bah, il a aussi ses limites dans des formats, dans des tailles de textes, d'articles. Et puis voilà, il faut écrire pour le lendemain, c'est un quotidien, il faut aller vite. Donc à un moment, j'ai ressenti le besoin de dire plus, c'est-à-dire que tout ce qui s'était accumulé justement, c'est-à-dire tous ces silences, tous ces non-dits, tout ce besoin de trouver des réponses, ça revenait affaire après affaire. Donc finalement, il fallait s'en emparer. Telle quelle, et en faire une matière pour raconter, voilà, ça, ce vide-là. Et pas simplement faire un compte-rendu d'une affaire pour le lendemain.
Le vide des mots, le silence, quand vous parlez de silence, vous parlez de quel silence? À quel silence vous avez voulu répondre en vous mettant à écrire?
On pourrait passer des heures à parler du silence dans les tribunaux, parce qu'il y a des moments incroyables de silence dans les cours d'assises, quand on attend. Quand vous avez une salle, ça arrive, parfois les salles sont vides, mais souvent elles sont pleines. Quand vous avez une salle pleine, chargée d'émotions, qui ne dit plus rien, il n'y a pas un mot, parce qu'on attend que l'accusé, par exemple, dise quelque chose, qu'il rompe le silence, ou qu'il s'est enfermé dans un mensonge, on sent bien qu'il est prêt, il est tout prêt. Il y a un moment comme ça, très fort, tout le monde attend, et il ne se passe rien. Je me rappelle d'une histoire comme ça, un jeune homme de 19 ans, qui a tué de 13 coups de couteau un autre jeune homme. On ne sait pas pourquoi, lui-même le dit pas. Il dit rien, il n'explique pas. Mais il y a un moment, après des jours de procès, où la présidente voit bien qu'elle arrive à rien avec ce jeune homme-là. Et elle se tait, tout le monde se tait, et elle tourne juste la tête comme ça, et elle le regarde. Mais un peu presque comme une mère un peu mécontente, quoi. Et on voit qu'il est prêt à... Et puis finalement, on lit sur son visage qu'il va pas le faire et qu'il se replie sur lui-même. Et ça, c'est des silences qui sont très forts. C'est parce que tout à coup, on matérialise l'impossibilité de la vérité. On saura jamais. Et donc, on sait que c'est fichu. Voilà. C'est-à-dire que les familles vont repartir sans réponse. Les familles de la victime n'auront jamais de réponse. C'est terminé.
Et est-ce qu'il y en a une? C'est la question qu'on se pose.
Parfois, le simple fait de donner une petite explication, de recréer par l'explication, on humanise le geste un peu. C'est-à-dire que le fait de dire j'ai pas fait exprès ou oui, ça recrée du lien. Et souvent, tout est affaire de silence et de lien. Et la justice, c'est un moment où on essaie de faire en sorte que des gens qui ont commis un préjudice ne quittent pas la communauté des hommes pour autant. On leur dit vous allez être punis justement parce que ça va vous permettre de rester dans la communauté des hommes. Et l'explication, le langage, c'est une manière d'y rester très forte. Et quand il y a ce refus, eh bien il est terrible parce que c'est quelqu'un qui dit face au public « Non, je ne suis pas capable, je veux rester moi tout seul et je suis trop dans une solitude, je ne peux pas affronter ça, donc je ne vous donnerai pas ça ». Et donc voilà, il y a une espèce d'échec comme ça qui est très... Mais il y en a d'autres, des histoires, il y a... compliqué, mais quand c'est des... Ça concerne parfois des enfants aussi, les procès. Et moi je me souviens de ce procès où un enfant qui est victime assiste au verdict. Donc il n'a pas vu ses parents depuis des années. Et ses parents sont dans le box, ils vont être condamnés. Et lui, il n'entend rien, on le voit. Il cherche le regard de son père. Et son père ne le regarde jamais. Et cet enfant, il apprend que son père va partir pour 20 ans en prison parce qu'il lui a fait du mal. Mais lui, il est encore dans cette quête un peu d'amour infantile. Et l'échec de ce regard-là, il est terrible. Et nous, on repart du tribunal avec ce silence-là, avec le souvenir de ce regard qui n'a pas été rendu. Et c'est pas possible de n'en rien faire.
C'est pas possible de vivre avec ce silence, non. Dimitri Rouchon-Bory. C'est pour ça que vous avez écrit,
oui.
Vous avez commencé à écrire. Vous n'en pouviez plus de ce silence, de tous ces silences accumulés pendant ces années de chronique judiciaire.
Oui, puis il y a ce mystère aussi qui est incroyable, c'est que le silence qu'on y rencontre, il finit par rencontrer le nôtre. La solitude des gens finit par rencontrer la nôtre. Et il y a ce sentiment bizarre par moments qu'on voit bien qu'on a affaire à des gens qui sont comme nous. Alors, ils sont très différents de nous. Ils ont commis des choses qui sont extrêmement difficiles. Mais quelque part, ces gens-là, c'est quand même nous. Et donc, c'est très, très, très particulier aussi de ressentir ça, de ne pas refuser ces gens-là. Comme étant des extraterrestres ou des mauvais, voilà, il faut les mettre à côté. Non, ils font partie de la communauté des hommes, donc ils partagent la même nature que la nôtre.
Et alors, pour faire que ces hommes et ces femmes et ces hommes qui n'ont pas eu les mots puissent rejoindre la communauté des hommes, vous essayez de leur donner une langue. Et vous avez essayé dans le premier roman qui a été publié, Le démon de la colline au loup, là, votre personnage principal, Duke, vous essayez de lui donner une langue. Vous dites que c'est quelqu'un qui n'a pas les mots, justement. Mmh. Il n'a pas de langue. Il dit « j'ai un parlement ». Et vous essayez comme ça de lui donner une langue pour qu'il puisse donner, d'une certaine façon, un sens à sa vie.
Oui.
C'est ça que vous souhaitez faire, c'est ça que vous faites comme écrivain, c'est donner des mots à ses victimes ou à ses bourreaux.
Je pense que c'est une façon de faire parler la solitude elle-même, presque. Parce qu'effectivement, on ressent ça, affaire après affaire. Ça se lit sur les visages et on voit bien qu'il n'y a pas toujours les mots, il n'y a pas les pensées. Il y a aussi la justice, c'est un moment de solennité totale. Donc c'est très compliqué pour des gens qui ont eu un parcours extrêmement chaotique de pouvoir avoir un discours d'introspection clair et limpide. Ça n'existe pas. Et effectivement, j'avais l'impression que c'était pas possible que j'aille chercher l'explication avec mes mots à moi. Il fallait que ça passe par quelque chose de beaucoup plus radical. Ça devait être... une langue que moi-même je découvre et je l'ai pas cherchée, cette langue, en fait elle est venue d'elle-même.
Là vous parlez de la langue du personnage.
Du personnage de Duke,
Son fameux parlement.
C'est vraiment la langue de Duke, c'est lui qui arrive avec sa langue.
Qui sont un mélange de différents niveaux,
oui,
de langue.
Oui.
Sans ponctuation, c'est des jets comme ça, c'est un souffle. C'est qui sort de ce corps.
Oui, c'est des fulgurances de quelqu'un qui n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'il aborde tout avec la même candeur. C'est un peu un enfant philosophe né dans le chaos, et donc il va vers les plus grandes questions sans les craindre, parce qu'il n'a plus rien à craindre.
Mais c'est un livre plein d'espoir, celui-là, Dimitri,
oui,
Rochon-Bory, parce que c'est l'éveil d'une conscience, c'est quelqu'un qui cherche le pardon d'une certaine façon, la rédemption, même si... Il en sourit et qui demande à son co-détenu comment on écrit rédemption, et l'autre il répond avec ma bite.
Oui, parce que tout est...
Ça va.
Ben oui, parce que...
ça pas mal.
Ben oui, parce qu'en fait, ça c'est marrant parce que on a ça tout le temps un peu au tribunal. C'est-à-dire cette manière qu'ont les grandes questions de la condition humaine de traverser les anecdotes les plus salaces, les plus cocasses et puis parfois les plus dégoûtantes. Donc on est vraiment dans cette matière-là.
Et on rit.
Au tribunal, on rit. Alors, c'est étonnant parce que maintenant qu'on a dit que c'était beaucoup de silence et de souffrance, n'empêche que c'est sans doute un des endroits où on rit le plus. Alors, peut-être parce que c'est interdit, donc on n'a pas le droit de rire, mais aussi parce que c'est le lieu du saugrenu, de l'absurde. Et quand on disait que chaque journée est particulière au tribunal, il y a aussi cette dimension-là, c'est que parfois on s'attend à pleurer et on rit. Parce que on a affaire à des gens. Moi, je me rappelle d'un monsieur qui avait été interpellé parce qu'il voulait aller en prison. Et il tenait à aller en prison. Et donc, il commence son procès en disant « On n'y va pas par quatre chemins. Qu'est-ce que je peux avoir de plus lourd en peine ?» Donc, les juges essaient de lui expliquer que c'était pas possible. Et il a fait rire toute la salle parce que c'est un monsieur un peu particulier, mais il voulait vraiment aller en prison. Et donc, du coup...
Pour
se refaire une santé. Et c'est un monsieur qui avait des problématiques de stupéfiants assez importantes et il voulait absolument aller en prison. Donc il comprenait pas pourquoi il voulait pas de sursis, il voulait avoir une peine ferme. De 2 ans, ça lui allait très bien. Et donc il a essayé de négocier pour avoir 2 ans ferme. Ça, c'est des moments, mais j'avais voulu l'inventer, personne ne m'aurait cru.
Alors il y a ce premier roman qui a été publié, qui est le démon de la colline au loup, où on voit une petite lumière au bout du tunnel. Et puis, il y a ce roman-là qui sort cette semaine, Ritournelle, Dimitri Rochon-Bory, où là, c'est absolument sans espoir.
Oui, c'est vrai.
C'est tragique, c'est horrible, c'est absurde. Une mécanique comme ça, macabre, où une soirée arrosée finit en séance de torture, de meurtre.
Ritournelle, c'est vraiment un récit qui, je pense, essaie d'amener au plus proche de ce que c'est que l'expérience d'un procès d'assises, justement. Parce qu'on n'a pas les réponses, parce qu'on assiste jour après jour à la description de cette mécanique qui part de rien et qui mène à la mort la plus atroce qui soit, de gens qui se connaissaient même pas la veille. Et c'est étonnant parce que, effectivement, la littérature, elle est pleine de méchants, de choses construites, etc. Et là, c'est une façon d'essayer d'amener le réel, ce qu'on voit au tribunal, un peu dans la littérature, en conservant cette impression qu'on a, justement, de plafond bas, d'ambiance écrasante. Tout est absurde, rien n'a sens, et pourtant, c'est absolument dramatique.
Aucune conscience du mal. Terrible.
Non.
Aucune conscience du mal dans ce livre.
Non, les gens disent « Ouais, j'ai peut-être mis 2-3 claques, effectivement, mais je me souviens de rien. » Les gens se souviennent pas. Et donc, il faut essayer d'expliquer la mort violente, et il n'y a pas d'explication. Et nous, on doit raconter ça. Ça finit par être une description, comme ça, de l'absurdité.
Et du mal.
Et du mal.
Absolu.
Ouais.
Brut.
Et du mal incarné dans l'ordinaire, c'est-à-dire que il n'y a rien d'extraordinaire, justement. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de sophistication, c'est pas des gens qui sont habillés en noir avec des gants en cuir, rien. C'est monsieur tout le monde.
Alors Dimitri Rouchon-Bory, vous êtes un grand lecteur, vous êtes nourri de Maupassant, de Victor Hugo, mais aussi du roman noir avec James Ellroy, qui a été un choc pour vous, la lecture d'Ellroy a été un choc. Et étonnamment, vous aimez aussi Chateaubriand.
Ma vie, solitaire, rêveuse, marchait au travers de ce monde de réalité, de catastrophe, de tumulte, de bruit, avec les fils de mes songes, Chaptas, René, Eudore. Avec les filles de mes chimères, Atala, Velleda, Simodossé. Je n'ai plus autour de moi que quatre ou cinq contemporains d'une longue renommée. La France n'a presque plus rien de son passé si riche. Elle commence une autre ère. Je reste pour enterrer mon siècle, comme le vieux prêtre qui, dans le sac de Béziers, devait sonner la cloche avant de tomber lui-même lorsque le dernier citoyen aurait expiré. Les scènes d'Hotman ne me regardent plus, elles appellent d'autres peintres. À vous, messieurs.
C'était une archivina de 1963 et c'était Pierre Fresnay qui lisait un extrait des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Dimitri Rouchon-Bory, vous êtes entre Ellroy et Chateaubriand ? C'est pas mal, hein ? Personne oui, n'a fait cette synthèse-là encore, je crois.
Alors moi, je fais pas la synthèse, mais c'est vraiment des chocs. C'est-à-dire que moi, je découvre Chateaubriand quand j'ai 14-15 ans et c'est la première fois que je me rends compte de ce qu'on peut faire avec la langue française, c'est-à-dire c'est incroyable de voir la beauté, je découvre de la beauté littéraire, voilà. Et j'en garde ça, et je sais pas comment ça me travaille après. Avec Ellroy, c'est différent, parce que je découvre qu'on peut encore inventer des choses aussi avec une langue, il n'y a pas eu que lui, il y a eu même Céline, par exemple, qui... Bon, c'est toujours controversé, Céline, mais le style m'avait heurté, parce que voilà ce qu'on peut faire avec des mots. Et Chateaubriand, il a son univers lié à l'époque. Ellroy, lui, il raconte tout un monde aussi. Un monde complètement fou, avec un langage qui, moi, m'avait happé, vraiment. Et c'est, ce qui est incroyable, c'est quand on est au tribunal ou quand il a été question, pour moi, de me rendre compte que les articles ne suffisaient plus. Je me suis jamais posé la question de savoir de quelle langue c'était. Mais déjà, dans les articles, j'avais cette envie d'aller mettre un peu de lumière, quand même, dans tout ça, par les mots.
Ramener Cora, 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 Cora. ramener. Cora, 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 Cora. Mais de quel bois me chauffes-tu? De quel bois es-tu fait? Mais de quel bois me chauffes-tu? De quel bois es-tu nu? De quel bois es-tu fort quand il fait froid dehors?
Journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Dimitri Rouchamboré, on arrive à la dernière partie de cette émission qui peut être par moments un peu difficile pour nos invités et on commence toujours par le hit parade de l'année de votre journée particulière. Alors, en 2011, Mika chantait « Elle me dit ». Shakira reprenait « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel et Rihanna chantait ça. I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. And I took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man Down de Rihanna. Alors, vous adorez cette chanson?
Oui, j'aime beaucoup cette chanson. J'aime beaucoup Rihanna.
Vous aimez beaucoup Rihanna. Alors, c'est une chanson qui parle de meurtre, en plus.
En plus, ouais. Vous avez trouvé que je tourne toujours autour des mêmes sujets. Hein,
mais... Non, pas du tout. J'ai vu que ça vous faisait très plaisir et c'est rare parce que ça marche pas à tous les coups. Ça, c'est aussi quelque chose que vous écoutez en voiture en sortant du... Non.
Si, ça peut. Parce que parfois, ça fait un bien fou de retrouver la vie des autres, d'allumer la radio, par exemple. Et d'écouter ce qui passe, parce que on rejoint le flux.
Ouais.
Et voilà, on n'est plus tout à coup, on n'est plus en dehors. On est dans la vie des autres et tout est normal, donc tout va bien.
Tout va bien, c'est fini. Alors il se trouve qu'en 2011, il y a eu un fait divers terrible, un meurtre dans vos régions en plus, puisque c'était à Nantes le 21 avril 2011, sous les dalles de la terrasse d'une maison de Nantes. Vous voyez où je veux venir ? Les policiers découvraient les ossements d'Agnès, Benoît, Anne, Thomas et Arthur Dupont de Ligonnès, tous tués à la carabine 22 long rifle. Et le père de famille, Xavier, est depuis recherché, soupçonné du quintuple assassinat de sa femme et de leurs quatre enfants. Vous avez suivi cette affaire-là un peu ?
Oui. Alors pas en tant que journaliste, hein,
ouais,
mais en tant que, on va dire, lecteur ou journaliste, ou connaissant des collègues aussi, des confrères qui ont suivi de plus près ces dossiers-là, bien sûr.
Et alors ?
C'est un mystère criminel absolu, donc c'est fascinant, parce que c'est extraordinaire, justement. Et pour moi, c'est l'inverse de tout ce que je connais, puisque moi, tout est un peu dans le... Justement, moi, je suis dans la banalité du mal ordinaire, et là, tout à coup, c'est extraordinaire. Donc, c'est un registre complètement différent.
Alors, la tradition veut que dans cette émission, à la fin de l'émission, on vous offre une sorte de cadeau. Et là, aujourd'hui, Dimitri Rouchamboré... on a pensé à vous faire entendre la langue, la verve et le talent de comédien du grand chroniqueur judiciaire de radio qui s'appelait Frédéric Potcher. Ouais, vous le connaissez ?
Oui.
Alors on écoute, et il a couvert entre autres tous les grands procès du XXe siècle.
Rendez-vous à 5h. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Notre premier rendez-vous, si vous le voulez bien, sera près des quais de la Seine, au palais de justice, où les affaires se suivent et ne se ressemblent pas. Mais l'imagination des dites accusées est telle qu'à chaque nouveau procès, on ne peut s'empêcher de songer à un scénario original, bien conçu, avec suspense, avec humour quelquefois. Cela est si vrai que l'on a admis une fois pour toutes que la réalité dépasse la fiction. Et pour bien vous en convaincre, c'est Frédéric Potcher qui va vous rapporter une curieuse affaire qui a conduit devant ses juges une femme très distinguée.
Oh, mais très, très distinguée, en effet. Car Madame Léa Rassol, 45 ans, en impose, croyez-moi, des cheveux blonds superbes, coiffés à la grecque, des mains fines et longues, un physique de grande tragédienne, et avec ça, une voix suave. Madame Léa Rassol, qui est accusée d'exercice illégal de la médecine, d'une voix mourante et les yeux inspirés, Léa Rassol raconte qu'elle a été initiée à la radiesthésie par un illustre savant indonésien, le docteur Charkavala, lequel serait un bienfaiteur de l'humanité. Le président demande alors à Léa Rassol ce qu'elle pense des accusations portées par les partis civils. Et nous entendons cette réponse. Tout cela, monsieur le président, est bas et quelque peu ignoble, je dois le dire. Je me suis tout simplement penché avec passion sur la misère humaine et je crois bien que l'on ne peut pas me comprendre. J'aurais pu citer 100 témoins, monsieur le président, 100 personnes qui seraient venues ici pour me défendre, mais je ne l'ai pas fait, à quoi bon? En tout cas, il ne faut pas me demander de regretter un délit que je n'ai jamais eu l'impression de commettre.
Dimitri Rouchambouri, alors, la réalité qui dépasse la fiction.
Mais oui, c'est fantastique d'écouter puis d'entendre cette voix avec ces mots de l'époque et cette façon de décrire, parce que le tribunal, effectivement, il y a ça, on a l'avocat qui s'en va parce que il vient de s'apercevoir que l'escroc qui devait défendre l'a payé avec un chèque falsifié. Je me souviens d'une histoire où une dame prend gentiment en charge un bébé dans une poussette parce qu'il fait du bruit dans la salle d'audience, et cette dame allait être jugée quelques instants après pour non remise d'enfant. Il y a du cocasse comme ça, et puis il y a des histoires qui sont invraisemblables tout le temps.
Tout le temps. Dites-moi, vous êtes en train d'écrire un nouveau livre, là?
Oui.
Où il y aura de la lumière ou pas?
Oui, beaucoup plus.
Encore?
Je pense que, après Le démon de la colline au loup, il y a quelque chose qui est fait, ça y est. Voilà, c'est libéré. Et même si, peut-être, j'ai toujours besoin d'aller chercher dans ces questions qui concernent la solitude, qui concernent le silence, qui concernent l'absurdité de la vie humaine, je n'ai plus besoin d'aller chercher ces questions-là dans autant d'extrémités, dans autant de dureté.
Et est-ce que l'écriture, comme vous l'avez écrit, reste pour vous un art de la survie en territoire hostile?
J'ai l'impression qu'il vient un moment où moi j'ai écrit pour ne pas être terrassé, pour pouvoir continuer à affronter ce monde-là, pour continuer à essayer de le comprendre, pour essayer de le faire de mieux en mieux. Mais il fallait écrire parce que ça, c'était plus possible de ne pas avoir de réponse. Il fallait que je donne une voix à tout ce que je n'entendais pas. Et c'était le seul moyen de tenir le coup.
Le besoin de recréation.
Oui, de recréer, de redonner les formes là où il n'y en avait pas, d'essayer de comprendre toujours, de jamais s'arrêter, de remettre les gens en perspective dans des moments d'humanité.
Et d'empathie.
Et d'empathie. Toujours se mettre à la place des autres en essayant de savoir d'où ils partent et puis avec quels moyens ils ont conduit leur vie, leurs histoires, et on s'aperçoit que c'est jamais simple. Et plus on assiste à des procès, moins on arrive à juger les autres.
Ouais, c'est ça, sans jugement. Merci Dimitri Rouchambouri d'avoir passé cette heure avec nous. Donc Le démon de la colline, votre premier roman qui a été parmi les finalistes du Goncourt premier roman. Et Ritournelle, qui vient de sortir cette semaine, sont publiés aux éditions du Tripode. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combes, avec l'aide de Denis Forget et Alina, à la programmation musicale Djoubaka, à la réalisation Flora Bernard et Hugo Combes, c'était une première, et à la technique aujourd'hui, Pierre Montaigne. À la semaine prochaine.